Bienvenue à chacun et chacune en ce dimanche, pas dire ensoleillé, mais j'espère que vous amenez le soleil dans votre cœur. Bienvenue aux visiteurs et visiteuses. Je vous accueille ce dimanche matin, 12 avril 2026, pour passer un temps ensemble, un temps avec le Seigneur, à son écoute pour le louer. Dimanche passé, nous avons fêté Pâques. Le drame de la crucifixion finissant dans la puissante victoire de la résurrection. Selon l'expression, tout est bien qui finit bien. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez eu l'occasion de voir des films. Des films où, après une série de malheurs, de dangers, tout finit bien. Les méchants sont perdants, ils sont mis en prison, ils sont éliminés. Le bien triomphe, les gens se réconcilient, la vie est belle. Et l'histoire s'arrête là. Il n'en est pas de même de l'histoire de l'Évangile. Au contraire, l'histoire ne fait que commencer. Le temps de l'Église, qui est le témoin de la grâce et du salut que Dieu offre, qui est le témoin de cette résurrection, n'est qu'au début de sa mission et perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu comme ces longues séries américaines où il y a 15 000 épisodes, sauf que les épisodes sont meilleurs. C'est pas du... Je ne dirais pas ce que c'est. Au mieux pas. Voilà, on n'est pas dans une série à la brésilienne ou à l'américaine, mais l'histoire continue. Pâques, c'est que le début, ce n'est pas la fin du film, c'est le début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette première journée de résurrection? Donc, on le sait, Jésus est ressuscité, il est apparu une première fois aux disciples qui étaient réunis dans cette salle où ils étaient enfermés par peur des Juifs. Et nous voyons à la suite de ça, et c'est dans la suite de l'évangile de Jean, au chapitre 20, nous lisons, 8 jours après, donc ce sera demain, si on veut être chronologique, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Ben oui, parce que le soir, le premier jour, il n'était pas là. Et il a dit, si je ne vois pas Jésus en chair et en os, je n'y croirai pas à cette résurrection. Donc Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux sommes-nous si nous croyons sans voir. » Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il est parlé de la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, il y a toute l'énumération de tous ces, nos prédécesseurs, hein, les patriarches, Abraham, Enoch, tous ceux qui ont cru à ce que Dieu allait faire, qui ont cru Dieu, même au-delà de ce qui était du visible. Abraham, qui était un vieil homme, eh bien, il a cru qu'il aurait une descendance, il a cru qu'il aurait le pays de Canaan, il a cru à la grâce de Dieu. Quand il était prêt à sacrifier son fils, il a cru que Dieu pourrait le ressusciter. Alors qu'il n'y avait aucune preuve dans le monde qui pouvait attester, oui, ça s'est déjà fait et puis ça va revenir. Non. Et j'espère que chacun d'entre nous ce matin, on a cette foi en Jésus-Christ, sauveur du monde, qui apporte le pardon de nos péchés et la vie éternelle, et qu'on n'a pas besoin de quelque chose de qu'on puisse toucher, mais que notre esprit, le Saint-Esprit, nous donne cette assurance et qui nous permet justement ce matin d'adorer notre Dieu, de lui adresser des prières, d'être à son écoute, à l'écoute de sa parole. Et cela au-delà de nos circonstances, au-delà de l'actualité qui est toujours mauvaise et négative quand on entend les nouvelles, au-delà des apparences où le monde paraît aller à sa catastrophe, tels ces héros de la foi qu'Hébreux énumère, fortifions-nous dans l'heureuse espérance du salut et la vie éternelle promise par Dieu. Et je dirais dans ce contexte, ceux qui ont le journal, nous avons appris cette semaine le départ pour la cité céleste de notre frère Jacques Baumann. Il était encore parmi nous il y a deux, trois cultes en arrière, en visite. J'ai eu l'occasion de parler avec lui, et puis là, soudain, il n'est plus là. Mais c'était un homme de foi authentique, qui était apprécié et appréciable. Et il a été enseignant, et on l'a eu aussi ici. Et c'est vrai que, voilà, on sait qu'il est à la bonne place. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de sa famille ici ce matin, mais on va lui adresser aussi toute notre sympathie. Il y aura aussi une carte à l'arrière qui pourra être signée tout à l'heure. Et je donne la parole à Pierre qui a une anecdote par rapport à notre frère Jacques.
Bonjour frères et sœurs, chers amis. Sylvie a déjà dit pas mal de choses par rapport à notre frère qui vient de nous quitter. Ça devait être au Rameau, je crois qu'il était là la dernière fois. On a quelques amis de basse-cour qui viennent le cinquième dimanche du mois ici au culte. Et puis ça devait être le dimanche des Rameaux qu'on l'a vu la dernière fois. J'ai aussi salué courtement. C'est vrai que ça fait tout drôle de voir se faire part dans le journal. Et j'ai justement une petite anecdote. On parlait avec Josiane de ce qu'on avait eu l'occasion de vivre avec notre frère qui nous avait apporté des messages de culte, qui nous avait aussi donné des enseignements, vous vous rappelez certainement, pour les plus aînés peut-être aussi. Et il y a un message de culte qui nous avait marqué tout spécialement avec Josiane. Et puis c'est simplement ça que j'aimerais partager maintenant. Il avait parlé de l'appel des disciples. Je ne sais plus exactement quel texte biblique, je ne sais plus exactement quelle était sa démonstration au niveau du grec, mais il avait dit ceci: Jésus, il appelle ses disciples, il leur dit, venez à moi, derrière moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça nous a frappés, et on garde encore ce mouvement, venez à moi, derrière moi. Et Jésus, on le suit, c'est pas lui qui doit nous suivre. Alors on est appelé à venir à lui et puis à se mettre à sa suite. Alors voilà, ce soit un mot d'ordre aussi pour nous ce matin, continuer à la suite de Jésus. Et puis notre frère, eh bien lui, il était dans l'arène, hein, la piste où on court. Maintenant, il a rejoint les gradins. Nous, on continue d'être là, hein, cette série de héros de la foi, comme on les appelle. C'est simplement des hommes, des femmes qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu et puis qui avaient envie d'honorer Dieu au travers de leur vie. Merci.
Voilà. Eh bien, je vais remettre ce moment de culte et puis aussi la famille Baumann dans la prière. Seigneur, oui, nous te remercions pour ton amour, pour cette grâce que tu nous as faite, pour ce que tu veux nous apporter. Et merci, oui, de nous rappeler que tu nous appelles à ta suite. C'est pas nous qui allons là et là et que tu dois courir derrière nous, non. Tu nous demandes d'être à ta suite. Je demande vraiment ce matin de venir ce moment de culte, que ce soit un moment de ressourcement pour chacun, un moment aussi où tu nous visites, tu nous parles, tu nous fais du bien, tu nous encourages, tu nous consoles peut-être, tu nous fortifies en toutes choses. Je te remets aussi toute la famille de Jacques Baumann, que tu puisses aussi les consoler par l'espérance que tu peux donner à nos cœurs, l'espérance aussi que notre frère avait, et que ce soit vraiment une pleine consolation pour sa famille, sachant qu'il est maintenant dans tes bras, entre bonnes mains, comme on peut dire, et qu'il n'attend que le reste de sa famille pour le rejoindre. Que nous puissions aussi nous réjouir de ce jour glorieux où nous serons tous réunis. Oui, bénis ces instants.
Bien sûr, je laisse la parole à l'équipe de l'Orange. Mais
ce moment de joie glorieuse.
Bonjour à chacune et à chacun. En préparant ce moment, j'ai le texte dans Jean 20, à la résurrection de Jésus, qui m'a interpellée pour ce matin. Où il est écrit, Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe et voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie, « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui est là, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu ? » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit, « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis. » Et j'irai le prendre. » Et Jésus lui dit, « Marie, elle le reconnaît. » Et elle lui dit en hébreu, « Rabouni, cela veut dire maître. » Et en fait, en lisant ce texte, je me dis, oui, il y a des réflexions qui sont venues en moi, puis je me disais, mais c'est vrai que des fois, Jésus peut être à côté de moi, et je ne m'en rends pas compte. J'ai l'impression d'être seul dans l'épreuve, mais il est là, présent, à côté de moi. Et est-ce que, là, c'est Jésus qui l'a appelée et elle a pu, en fait, entrer après dans cette joie. Mais si moi, en fait, il suffisait que j'élève son nom, que je lui apporte toute la gloire, que j'entre dans l'adoration pour, en fait, dire à mon âme, sors de tes circonstances, sors de ce que tu es. Et c'était en fait avec cela que j'avais envie de vous inviter dans ce temps de louange où c'est nous qui faisons ce pas vers Dieu, vers Jésus. Et si vous le voulez, vous pouvez vous lever. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie.
J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton âme,
mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon
toutes les générations devant lui prosterner en donnant ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité. Portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des cieux, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité.
Thank you.
précieux et de la terre. Dieu que je peux appeler Père. Tout puissant. Tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il règnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il règnera. Nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il règnera. Avec ceux qui ont saisi sa grâce, tout puissant.
Voilà, amen. Pendant le temps de l'offrande, nous allons chanter un chant. Je ne sais plus le titre. Ah, je suis né pour te louer. Donc on est né pour le louer, pour l'honorer, à travers nos biens, à travers nos personnes, les dons que Dieu nous donne. Merci encore pour l'offrande. Merci au groupe Louange. Voilà, maintenant nous allons écouter ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole, à travers Sébastien, que je remercie de s'être préparé. J'ai encore prié pour toi. Oui Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est là, ta parole est riche, riche en enseignement, en encouragement. Je te prie maintenant de bénir Sébastien, de l'inspirer, de merci déjà de tout le travail qu'il a fait pour ce matin, et que ton esprit, à travers lui, puisse parler à nos cœurs, à notre esprit. Amen.
Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie pour moi d'être de retour parmi vous ce matin. Je vous apporte les salutations de mon épouse Monica, qui est à Bâle, à l'église, parce qu'on a les baptêmes aujourd'hui. Donc elle est à l'accueil, donc il y a pas mal de boulot, notamment pour ceux qui ont fait les baptêmes ici. Il y a les linges, etc. Il y a beaucoup de logistique. Alors elle vous salue bien et elle se réjouit aussi d'être là la prochaine fois quand je serai ici. Ce matin... Alors nous venons de fêter Pâques, comme tu l'as bien rappelé Silvio. Nous venons de fêter Pâques, fête de résurrection, fête de lumière. Mais ce matin, je vais devoir jouer un petit peu les troubles fêtes. Enfin, pas moi, c'est pas moi le trouble fête, mais ça sera Amos, ou pas vraiment Amos, mais surtout la parole de l'Éternel. Dans Amos. Parce que la parole de l'Éternel, souvent, elle nous réjouit, mais parfois, elle est également dure à entendre. Et les paroles que Amos, le prophète Amos, a reçues de l'Éternel pour le peuple d'Israël, c'était des paroles dures, notamment dans ce chapitre de Amos 4. Nous sommes dans notre série sur Amos, nous allons continuer dans cette série, et ces paroles sont effectivement assez dures. Est-ce que tu peux mettre le PowerPoint ? Voilà, il a cette phrase, on y reviendra, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Je sais que les messages vont des fois un petit peu vite, on m'a souvent dit que c'est très condensé, qu'il y a beaucoup d'informations, on m'a demandé où on peut les réécouter. Il y a une façon très simple, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube Agua de Vida. Le plus facile, c'est de faire une photo de ce QR code, et en fait, ça vous amène directement sur la chaîne. Ça, c'est une des façons, donc vous pouvez les revisionner tranquillement. Évidemment, ces messages sont aussi sur le site de l'AMD, vous les retrouvez sur le site de l'Église. Alors, ce message de Amos, nous sommes dans l'Ancien Testament, et dans ce livre d'Amos, Dieu demande des comptes à Israël, son peuple. Il leur demande des comptes au sujet de leur comportement. Et on verra dans quelle mesure ce rappel à l'ordre est également valable pour son Église. Mais qui est cet Amos pour parler comme il le fait ? Il n'a ni diplôme, il n'a ni lettre de recommandation. Il n'a pas de diplôme, pas de certificat pour parler de la part de Dieu. Pour qui se prend-il? C'est qui ce gars qui débarque comme ça avec ce message? Alors Amos, c'est un berger de Judée, il vient du royaume du sud, près de Bethléem. Tiens, tiens, ça vous rappelle peut-être quelque chose, Bethléem. Et Amos est probablement un propriétaire de bétail, c'est un homme de la campagne, un homme de la terre, mais qui est néanmoins au courant des affaires de la ville, il est au courant des habitudes des gens de la ville. Et il a constaté dans ses relations avec le peuple d'Israël, il a constaté l'état spirituel de ce peuple. Et le constat n'est pas fameux. Il s'exprime autour de l'an 750 avant Jésus-Christ, et le royaume uni d'Israël avait été séparé en deux déjà, un royaume au nord, la Samarie, et un royaume au sud qui était la maison de David à Jérusalem. Et alors lui, Amos, décrit un état spirituel désastreux du peuple de Dieu et il le met en garde contre sa perte. Quelques années plus tard, effectivement, le royaume du nord sera déporté et ensuite celui du sud également. C'est un temps de souffrance, c'est le temps de l'exil qui s'annonce pour les Israélites. Je vais juste passer. Voilà. Un temps de souffrance donc qui s'annonce pour les Israélites. Et quel est le problème de ce peuple élu? Eh bien, une partie de ce peuple était devenue très riche. La terre que Dieu leur avait donnée était fertile, le bétail était bon. Donc Dieu avait béni son peuple avec cette terre. Mais ces richesses matérielles, eh bien, il ne les utilise pas à bon escient. C'est cela que le prophète Amos va pointer du doigt, la dégradation morale d'Israël, l'idolâtrie, les injustices sociales entre riches et pauvres. Et je vous invite à lire les versets, les trois premiers versets dans Amos 4, si tu peux juste passer. On est au verset 1 à 3 dans Amos. Je vais vous les lire dans la version Colombe 78, comme à mon habitude. Écoutez cette parole, vache de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les indigents, qui écrasez les pauvres et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre progéniture avec des harpons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous vous jetterez dans la forteresse, oracle de l'Éternel. Alors il s'adresse ici aux femmes riches de Samarie, parce que Bazan, quand il dit les vaches de Bazan, Bazan était connu pour son excellent bétail en Samarie. Et il pointe du doigt les femmes de cette région, car il dit qu'elles oppriment les indigents, elles écrasent les pauvres, et elles disent à leur mari, apportez et buvons. Alors vous allez me dire, ça ne se fait plus aujourd'hui d'opprimer les gens comme ça. Êtes-vous sûr? Je ne sais pas si vous avez été dans une situation où votre épouse ou votre époux, par désir de confort, par désir de richesse, vous encourage à faire les mauvais choix. Toi, tu aimerais peut-être être correct avec ces personnes qui te servent. Tu aimerais donner un bon pourboire au livreur de pizza. Tu aimerais donner un salaire correct au jardinier, à la personne qui fait le ménage chez toi. Mais ta femme te dit, arrête, garde cet argent. C'est pour nous. Ils ont qu'à se débrouiller. Chacun sa vie, chacun ses problèmes. Allez, amène la pizza et le vin et buvons à notre santé. Alors cet exemple vous fait peut-être un peu sourire et peut-être vous commandez jamais de pizza, peut-être que vous n'aimez pas les pizzas. Mais il y a d'autres exemples. Tu veux faire un don à l'église ou à un couple de missionnaires que vous connaissez et ta femme ou ton mari te dit « Quoi? Tu vas donner tout cet argent à l'église et moi ?» Tu m'amènes jamais au restaurant? Et puis nos vacances? Et puis mon cadeau d'anniversaire? Et puis tu ferais mieux de changer la voiture? Si vous avez vu ma voiture là-dehors, vous savez de quoi je parle. Il y a toujours quelque chose de plus important à faire et à acheter pour soi-même plutôt que de donner aux autres. Et Amos pointe du doigt une société injuste, un confort égoïste, et à ces femmes riches, l'Éternel leur dit « Voici les jours viendront où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre progéniture avec des harpons. » Il fait ici la prophétie de l'exil douloureux que le royaume du Nord allait subir seulement quelques années plus tard, quand ils seront déportés. La ville de Samarie tombe en l'an 722 avant Jésus-Christ aux mains de l'Empire assyrien et une grande partie de la caste dirigeante, donc les riches justement, est déportée vers d'autres régions de cet empire. C'est l'histoire des 10 tribus perdues d'Israël. Vous retrouvez ça dans le deuxième livre des rois. Et Amos continue au verset 4 et 5. Et là, il s'adresse plus seulement aux femmes, il s'adresse aux fils d'Israël en général. Et il leur parle quasiment d'une manière sarcastique. Il dit « Allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez. » Parce que Bethel et Gilgal, qu'est-ce que c'était? C'était des centres de culte parallèles à ceux de Jérusalem, qui mélangeaient le culte de Dieu avec des croyances païennes. C'est cela qu'il montre du doigt. Et il pointe du doigt aussi leur hypocrisie. Plus loin, il dit « Proclamez, publiez vos offrandes, car c'est ce que vous aimez, fils d'Israël. » Et ça me rappelle beaucoup la parole du Seigneur dans Matthieu au chapitre 6, les versets 2 et 5, et j'aimerais vous les lire. C'est ce fait de proclamer publiquement les offrandes, d'être très, très public, d'en dire « oui, j'ai donné autant à l'Église ou à une œuvre, etc. » Alors, si vous lisez la parole du Seigneur dans Matthieu 6, au verset 2, il dit la chose suivante, vous connaissez ces versets, « Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Voici l'hypocrisie du peuple de Dieu. Et certains parmi vous font parfois l'erreur de penser que quand vous donnez à Dieu, quand vous donnez à son Église, vous achetez certaines faveurs en retour, soit de sa part, soit de la part de son Église. Ce n'est pas ce genre d'offrande-là que Dieu attend. C'est un rappel important, car quand vous donnez à l'Église ou à une œuvre de Dieu, essayez d'oublier au même moment le fait que vous avez donné. Que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, comme vous l'enseigne le Seigneur. Oubliez carrément que vous avez fait un don. Alors je sais, il vous faut parfois une attestation pour les impôts. Et moi-même, je n'aime pas devoir la demander. Donc si vous êtes une église ou si vous dirigez un ministère et que vous recevez de l'argent, pensez à envoyer un justificatif au donneur sans qu'il ou elle vous le demande. Vous lui rendrez un service devant Dieu. Mais revenons à Amos. Qu'est-ce que ça veut dire son nom, Amos? Amos, ça veut dire porteur de fardeau. C'est ça son nom en hébreu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu peut être comme un fardeau lourd à porter. Le prophète portant la parole doit absolument la partager à ceux que Dieu lui montre, même si cette parole est dure et difficile à entendre. Souvenez-vous de Jonas, j'avais prêché sur Jonas. Ses paroles pour les Ninivites étaient des paroles dures, mais elles les ont menées à la repentance. Et j'aimerais vous faire remarquer qu'Amos n'utilise pas un langage politiquement correct. Il traite les femmes de Bazan de vaches. Il dit qu'on les enlèvera avec des crochets et leurs enfants avec des harpons. C'est un ton qui peut choquer. Alors ma tâche ce matin, ce n'est pas de vous prêcher un évangile politiquement correct, un évangile confortable. À ce moment-là, je serai resté chez moi, car mon lit aussi, il est très confortable. Comprenez-moi bien, je ne viens pas ici depuis 2 ans pour vous brosser dans le sens du poil. Ma mission est de vous apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais aussi de vous rappeler votre responsabilité devant le Seigneur. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture et une société qui n'aime pas ce mot de responsabilité. C'est presque devenu un vilain mot aujourd'hui quand on demande à quelqu'un d'être responsable. Les gens se sentent agressés dans leur liberté de faire ce qui leur plaît. Nous vivons dans une culture dans laquelle les gens ne veulent pas de responsabilité, et surtout pas de responsabilité devant Dieu. Les gens veulent l'argent sans avoir un travail ou un diplôme. Ils veulent le succès sans l'effort. Ils veulent le sexe sans les liens du mariage. Ils veulent fonder une famille sans la responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Nous vivons à une époque où ce que Dieu déclare juste, notre culture le déclare faux. Et ce que Dieu déclare faux, notre culture le déclare juste, et elle en fait même la promotion. C'est un monde à l'envers, un monde qui marche sur la tête. Nous avons perdu notre caractère, nous avons perdu notre moralité, nous avons enlevé la spiritualité. Alors, les personnes ont perdu leur repère au point de même plus savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Une prédication biblique devant la Migros à Delémont, si je le faisais, ça gênerait. Même à l'église, parfois, une prédication, ça gêne les gens. Mais au lieu d'un culte et d'une prédication biblique, la société préférerait qu'on organise une sorte de table ronde où tout le monde exprime un peu son point de vue sur sa propre façon de voir la vie. Et puis je vous dirais, c'est super, on a bien discuté de nos points de vue et de nos philosophies et on en ferait une sorte de bouillie. Et puis je mettrais des post-it, on pourrait mettre des post-it ensuite au mur avec toutes les idées. Et puis ensuite, on essayerait tant bien que mal de faire coller les morceaux avec la parole de l'Éternel. Et on en ferait une espèce de soupe, une soupe aux lettres, si vous voulez. Mais la parole de Dieu n'est pas une soupe. Les Saintes Écritures ne sont pas une bouillie. Elles sont là comme un point de référence, un rocher solide. La parole de Dieu nous donne une feuille de route claire pour notre vie. Alors le problème n'est pas nouveau, comme on le voit chez Amos. Malgré la clarté du message divin, le peuple de Dieu n'écoute pas. 800 ans avant Amos, Moïse avait déjà annoncé à Israël les effets de l'obéissance et de la désobéissance. Il est très clair avec eux. Il leur dit, si vous obéissez à Dieu, vous recevrez des bénédictions nombreuses, et si vous désobéissez, ce sera une liste de châtiments terribles. Vous lirez le catalogue dans Deutéronome au chapitre 28, c'est le catalogue des bénédictions et des châtiments annoncés par Moïse au peuple d'Israël. 800 ans plus tard, ils désobéissent encore, et alors Amos va leur rappeler d'autres plaies, un autre catalogue additionnel de souffrances auquel Dieu les a exposés. Il le liste au verset 6 à 13 dans notre chapitre dans Amos. Il dit, je vous ai envoyé la famine, le refus de la pluie, la rouille et la nielle. J'ai envoyé la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Je vous ai bouleversés. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Il y a une erreur, ce n'est pas revu à moi. Vous n'êtes pas revenu à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Il le dit 5 fois dans le texte. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. C'est le titre de ce message aujourd'hui. Certains et certaines d'entre vous sont passés par des épreuves. Certains passent par des souffrances en ce moment même. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas tous les détails, mais il y en a parmi vous qui traversent des moments difficiles. Un petit drame ou un grand drame. Il y a quelque chose qui te tracasse, qui essaye de te voler ta joie et ta paix. Alors soyons clairs, parfois les personnes s'infligent des souffrances à elles-mêmes, directement par leur péché. Si vous vous plantez dans un arbre parce que vous avez bu au volant et que vous vouliez passer le col des Rangiers à 130 km/h, alors on connaît le responsable de l'accident. Mais parfois, c'est des événements dans vos vies que vous ne causez pas vous-même et que Dieu pourrait bien sûr empêcher, puisqu'il est tout-puissant. Mais pourquoi Dieu laisse ces événements arriver dans votre vie? Une maladie, la perte d'un travail, le chômage, la perte d'un proche, un drame profond dans votre vie, ce n'est pas forcément la conséquence directe de vos péchés. Alors pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas ces choses d'arriver? Pourquoi vous laisse-t-il traverser une période difficile? Et que fait Jésus dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas puisqu'il est vraiment ton sauveur? Je vais y revenir. Mais j'aimerais d'abord approfondir un peu la question de la désobéissance d'Israël dans Amos. Car certains vont me dire, mais tout va bien, c'est l'histoire d'Israël. On la connaît bien, elle se répète jusqu'à aujourd'hui. Mais heureusement, nous ne sommes pas Israël. Et je vous répondrai oui et non. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire ce que je crois à ce sujet. Ma théologie de l'Alliance est assez semblable à celle de l'apôtre Paul. Je vous renvoie au message que j'ai donné ici qui s'intitulait « Bienvenue dans la famille de Dieu ». Vous vous souvenez, j'avais fait 2 minutes de théologie. Je vous avais dit « je fais 2 minutes de théologie ». Alors non, l'Église n'a pas remplacé Israël, mais l'Église est devenue le peuple de Dieu par sa greffe sur l'arbre d'Israël grâce à l'œuvre expiatoire de Christ. C'est l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc dont parle Paul dans Romains. Non, je ne suis pas israélite, mais en tant que chrétien, je me nourris de la sève d'Israël. Génétiquement différent, mais biologiquement uni avec Israël, exactement comme le greffon sur un arbre. Voilà, c'était mes 2 minutes de théologie. Alors, bien sûr que tu n'es pas directement responsable de la désobéissance d'Israël. Bien sûr que l'Église n'est pas responsable du péché d'Israël devant Dieu. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tu n'es plus pécheur. Ça ne veut pas dire que tu désobéis jamais à Dieu. Bien sûr que tu pèches encore, et moi aussi. Mais la grande différence, c'est que nous avons désormais un intercesseur auprès du Père, celui qui nous a libérés de l'esclavage du péché sous la loi, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et quand Satan nous accuse, Jésus intercède pour nous, car il nous a rachetés. Merci Jésus, car tu as payé de ton sang pour me préserver de la condamnation. Merci, car c'est par ta grâce seulement que je suis sauvé, moi le pécheur. Alors très bien, d'accord, si tu crois en Jésus, si tu es né de nouveau, alors tu n'es plus condamné par la grâce de Dieu. Mais quand tu pèches, quand tu désobéis à Dieu, quand tu continues à le faire, alors ta relation avec Dieu est troublée. Ton service pour Dieu est entravé, ton lien avec lui est endommagé. Ta vie de prière en souffre et ça arrive très très vite. En très peu de temps, tu as arrêté de lire la Bible, tu as arrêté de prier régulièrement, tu as arrêté de te réunir avec tes frères et sœurs, tu as arrêté de demander conseil à Dieu et très vite, c'est ta foi elle-même qui est remise en question. À cause du péché, les désirs charnels qui subsistent dans ton cœur font la guerre à ton âme. 1 Épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. C'est une chose importante et il faut bien comprendre cela. Même si tu n'es plus esclave du péché, le péché peut tout de même détruire ta vie. Paul est très clair dans Romains au chapitre 6. Quand les chrétiens cèdent au péché, ils se rendent progressivement esclaves du péché. Toi qui étais libéré en Christ, tu te remets toi-même en prison. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis libre, je n'ai pas envie de me remettre en tôle. Je ne sais pas ce que c'est qui te détourne de Dieu. Je ne connais pas ta vie en détail. Toi-même, tu sais. Comme Israël, certains se sont détournés de Dieu. Tu t'es détourné et tu n'es pas encore pleinement revenu vers lui. Et pourtant, encore bien plus que dans Amos, Il y a un désir de réconciliation qui apparaît de la part de Dieu, un désir de restauration de la part de Dieu pour toi. En effet, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. C'est ça son Nouveau Testament. Il t'a choisi pour cela. Il veut que tu reviennes, mais toi, tu t'éloignes. Alors, que faire maintenant? Eh bien, si tu es ici ce matin, ça veut déjà dire que ton péché ne t'a pas tué. Qu'est-ce que tu veux dire, Sébastien? Je veux dire que si tu es ici ce matin, c'est bien parce que Dieu t'a préservé. Par sa grâce, il t'a donné du temps. Il t'a donné du temps additionnel pour faire le bilan de ta vie avec lui. Ton péché ne t'a pas conduit à la mort. Vous les connaissez, les alcooliques au volant qui s'écrasent contre un arbre, les adultères qui meurent du sida, ou les criminels qui se font descendre par la police pendant leur fuite. Et pourtant, toi, tu es encore en vie malgré ton péché. Alors si tu fais partie des élus de Dieu, si tu crois que Jésus est ton sauveur, mais que tu ne marches pas encore complètement de la façon que Dieu a prévue pour toi, alors il existe une réelle possibilité, une possibilité biblique pour que Dieu intervienne dans ta vie. Il peut intervenir pour transformer ta vie. Souvenez-vous de la phrase dans Jonas, dans le livre de Jonas, quand Jonas est en train et part vers la noyade dans la mer, le texte dit « Dieu fit intervenir un grand poisson ». Jonas était sur la mauvaise voie, il partait droit vers la mort au fond de l'océan, mais Dieu est intervenu. Et parfois, ces interventions divines signifient qu'il va te faire traverser des épreuves difficiles. Il va te placer dans des endroits difficiles et inconfortables pour un certain temps. Je vous avais dit que le ventre d'un poisson, c'est sans doute pas un endroit confortable. Mais c'était le meilleur endroit pour Jonas à ce moment-là. Prenez vos Bibles dans Hébreux 12, au verset 4 à 11. Je vais vous les lire. Hébreux 12, 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang combattant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils, puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Chers frères et sœurs, la souffrance dans les épreuves est plus facile à supporter quand on sait qu'elle est utile. Est-ce que vous savez que votre Sauveur a souffert lui-même? On a beaucoup parlé de ça à Pâques, de sa souffrance, puisqu'il connaît la souffrance ultime. Il ne va pas vous mener vers une souffrance inutile. La discipline de Dieu envers vous est comme celle d'un père envers son fils et sa fille. Ce n'est pas un signe qu'il n'aime plus son enfant, c'est au contraire le signe qu'il veut te donner un futur, le futur que lui-même a souhaité pour toi. Jésus a dû payer le prix avec sa vie, mais il ne te demande pas d'aller jusque-là ce matin. Il te demande simplement de se souvenir de cette exhortation. Et c'est quoi une exhortation? C'est une parole d'encouragement. Et la voici, je vous la répète, mon fils, ne prends, mon fils, ma fille, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Combien d'entre vous savent que Dieu a une mission pour vous dans votre vie? Quelques-uns, hein? Amen. Dieu a une mission dans votre vie. Est-ce que vous savez qu'il a un plan pour chaque étape de votre vie? Est-ce que vous savez que même dans les épreuves difficiles, il a un plan pour vous? Même les épreuves difficiles, il les a pré-approuvées. Il n'y a pas d'épreuve difficile qui ne soit pas passée sur sa table, qui dit « Ok, mon fils, ma fille peut traverser cette épreuve à ce moment-là. Il a les forces, je vais lui donner les forces pour traverser cette épreuve. » Ça fait 14 ans que je suis en Christ. Et ce que j'ai découvert pendant ces 14 ans, c'est qu'en toute chose, Dieu cherche le bien de ceux qu'il aime. Ceux qui sont appelés selon son plan. Ce n'est pas juste Paul qui l'a écrit, cela je l'ai vécu. Vous ne pouvez plus me faire douter de lui parce que j'ai trop vu sur la puissance de Dieu. Il m'a fait traverser des choses et il m'en a sorti. J'en ai trop vu sur lui pour que vous me fassiez douter de sa puissance. Tout comme il a sauvé le bébé Moïse de la noyade, tout comme il a prévenu Joseph de quitter la Judée pour préserver le bébé Jésus de la mort, de la même manière, Dieu va sauver ta vie. Plusieurs fois. Amen. Car il est ton père et tu es son fils, tu es sa fille et il avait un plan pour ta vie. Vous ne devez pas considérer les épreuves de Dieu comme des misères ou des accidents, mais comme des leçons importantes. Dieu te traite comme son enfant. Au verset 8, tous les enfants de Dieu font face à ces corrections. Si Dieu ne vous corrige jamais, alors vous êtes des enfants illégitimes. Il parle d'enfants bâtards. Si vous êtes des enfants de Dieu, il va vous corriger. S'il ne vous corrige pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de relation. Nos pères et nos mères, nous, selon la chair, nous corrigeaient pendant un temps. À plus forte raison, soumets-toi à ton père spirituel. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je préfère recevoir des corrections de la part de Dieu que de la part du monde déchu ou du prince de ce monde. Parce que là, vous seriez vraiment mal barré. Pourquoi est-ce que je suis si sûr que les corrections du Seigneur sont pour mon bien? Car je sais les promesses qu'il a pour son peuple. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je peux dire « Merci Seigneur pour mes épreuves, sans la souffrance de la trahison et du divorce, sans la douleur de perdre ma mère en devant assister impuissant à l'évolution de son cancer, sans ces drames dans ma vie, j'aurais probablement continué à vivre de la même manière charnelle et mondaine. Rien n'aurait changé dans ma vie. Je me serais jamais tourné vers Dieu, je ne l'aurais jamais connu. Merci Jésus, car avant de te connaître, je n'avais aucune joie dans ma vie, aucun but, aucune espérance, mais grâce à toi Seigneur, tu as tout mis en perspective, tu m'as redonné l'espoir, tu m'as redonné la vie, tu m'as donné une nouvelle vie. Et la vie, ça veut dire quoi? Eh bien la vie, ça veut dire la capacité de vaincre les épreuves et les tribulations. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive dans ma vie, j'arrive à rebondir. Critiquez-moi, mais je suis toujours là. Enlevez-moi mon travail, mais je suis toujours là. Je peux perdre des proches, mais je suis toujours là. Faites-moi chuter, mais je suis toujours là. J'ai de la joie dans ma vie, j'ai de l'espoir dans ma vie, j'ai de la passion dans ma vie, j'ai envie de danser même quand il n'y a pas de musique, j'ai envie de rire même quand personne n'est en train de raconter des blagues parce que j'ai la vie. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Il ne veut pas que tu vives une vie triste, frustrée, déprimée. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Il veut que tu aies la vie éternelle. La vie en abondance, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors, je ne connais pas toutes vos histoires personnelles, mais je sais que vous avez tous vécu à un moment ou à un autre l'intervention de Dieu dans votre vie. Est-ce que vos bénédictions passées sont venues dans la facilité, sans épreuve, sans souffrance, sans aucun doute, sans crise de foi? Il a chamboulé des choses dans ta vie. Ça n'a pas été facile, t'a éprouvé, il a fait bouger les lignes, mais c'était pour ton bien. À qui est-ce que je prêche aujourd'hui? Est-ce que c'est pour quelqu'un? Amen, amen. Alléluia. Je veux vous donner de l'espoir. Quand l'ennemi vient pour voler, pour tuer, pour détruire, ma tâche est de te dire que si tu as donné ta vie à Jésus, si tu te soumets à son autorité et que tu places ta foi en lui, alors tu vas le voir changer les circonstances de ta vie. Il allégera ton fardeau, il répondra à tes prières, il effectuera des miracles. J'aime vivre ce genre de vie. Il y a de la puissance dans la vie abondante. Quand tu fais un pas vers lui, lui fait deux pas vers toi. Ma tâche est de vous prêcher la lumière de l'Évangile de manière à ce qu'elle vous éclaire. La vérité de l'Évangile est là pour vous guider. C'est cela un Évangile efficace. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas toujours une vérité agréable à entendre, car elle remet en question certains de vos comportements, elle met en lumière certaines de vos habitudes, certains péchés que vous pratiquez en secret. C'est une vérité difficile à entendre, je sais. Et Amos le savait aussi, puisque Amos, son nom, ça veut dire le fardeau à porter. Alors Amos a délivré son message tel qu'il l'a reçu de l'Éternel. Faisons de même. Mais si, par peur, par crainte ou par lâcheté, on commence à tailler des morceaux dans cette vérité et qu'on essaye de les diluer pour ne plus froisser personne, alors on les transforme en cette bouillie qui a perdu sa saveur, l'Évangile devient inefficace, le sel a perdu sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté au dehors, comme dit le Seigneur dans Matthieu. Nous vivons dans une société qui n'aime pas les messages clairs, surtout quand ils posent certaines limites à nos comportements. Oui, car nous vivons dans une société spirituellement libérale, je dirais même libertaire, dans laquelle tout le monde a le droit d'avoir sa propre vérité. Alors voici la vérité dans laquelle je crois. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas honte de proclamer le nom de Jésus. J'ai été guéri par son nom, j'ai été délivré par son nom, j'ai été sauvé par son nom, j'ai reçu une nouvelle vie en son nom. Et je n'ai pas honte de vous proclamer ce matin qu'il est le seul vrai Dieu. Et je suis convaincu que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Et je suis venu ce matin pour vous déclarer que l'Église est son corps et que c'est bien lui et lui seul qui en est le chef. L'Église n'est pas de ce monde, même si elle doit exister dans le monde pour un temps. On ne peut pas échapper au monde, ce n'est pas ça mon message. Je ne vous dis pas de sortir du monde, vous ne pouvez pas sortir du monde. On ne peut pas échapper au monde, mais j'ai un problème avec le fait que certaines églises essayent tellement de ressembler au monde qu'elles ont dilué le message à tel point qu'on n'arrive plus à faire la différence entre l'Église et le monde. Ce n'est pas Netflix qui va changer la société, ce n'est pas les influenceurs sur Internet qui vous vendent les derniers trucs à la mode, ce n'est pas eux qui vont changer la société. Pourquoi? Car Dieu ne leur a pas donné une onction pour le faire. Mais c'est à vous que Dieu a donné cette onction pour faire changer les choses, à vous son Église. Il vous équipe chacun et chacune pour que vous fassiez une différence dans le monde. C'est ça votre mission. J'aimerais prêcher à une assemblée qui désire être un agent de changement dans cette société, un point de repère dans ce monde désorienté. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que les personnes voient suffisamment Dieu en toi? Est-ce que les personnes changent d'attitude quand vous entrez dans une salle, sur votre lieu de travail, avec vos collègues, avec vos élèves peut-être? Et j'aimerais que vous compreniez que quand vous allez quelque part, vous êtes ambassadeur et ambassadrice de Christ. Vous êtes les enfants du Très-Haut. Vous êtes appelés à être différents. Et je crois que par la grâce de Dieu, cette assemblée missionnaire ici est encore consciente de sa mission. Cette mission, c'est d'appeler et d'accueillir dans sa famille ceux que Dieu a choisis et de les guider, non pas pour les faire ressembler au monde, mais pour les faire ressembler de plus en plus à Christ. Celle de la terre, lumière du monde, telle est votre mission. Je loue le Seigneur car je sais qu'il reste dans cette assemblée un sel qui a préservé sa saveur et une lumière qui a gardé tout son éclat. Seigneur, cette assemblée, cette église, c'est le peuple de Dieu. Aide ton peuple, Seigneur, à te connaître et à revenir vers toi. Fais de cette assemblée un phare dans la ville pour que ceux que tu as appelés et qui te cherchent puissent aussi te trouver. Équipe les frères et sœurs de l'AMD, Seigneur, avec tes dons. Saint-Esprit, fortifie-les puissamment dans leur mission et donne-leur connaissance et sagesse pour les guider dans leur marche à la rencontre des autres, afin que tous ceux que tu as appelés, Seigneur, puissent te retrouver et revenir vers toi. Amen.
Merci pour ce partage sur Amos actualisé, on va dire ça comme ça. Alors c'est vrai, la souffrance, les malheurs, tout ça, c'est les grandes conversations qu'on peut avoir aussi avec les gens, la compréhension, et où est Dieu, pourquoi il n'agit pas, etc., pourquoi dans ma vie il arrive ça. Et vu que j'ai encore un peu de temps, nous avons encore un peu de temps, et j'ai une petite, je crois que c'est une histoire vraie, mais enfin voilà, c'est... Ça se passe au temps où les découvertes hein, des mondes en bateau, au temps des marins, où c'était une période où c'était rude, être marin, fallait s'accrocher. Et sur un bateau, il y avait un jeune garçon qui avait fait une faute assez grave, qui méritait un très grand châtiment, c'est-à-dire d'être fouetté. Et le capitaine a demandé à ces marins qui sait qui voulait fouetter le garçon. Et puis s'avançait un homme qui se trouvait être le père du garçon. Voilà, méritait d'être châtié, donc il l'a fouetté. Et puis le fils n'a pas compris pourquoi son père faisait ce châtiment. Il aurait plutôt pensé, préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et puis après ben, qu'il a été fouetté, ben, voilà, il est détaché, il est allé vers lui, il a pris soin de lui. Et puis le fils a exprimé son incompréhension, mais pourquoi c'est toi qui m'as frappé? Il a dit, oh, mais si c'est un autre marin qui t'avait frappé, tu serais peut-être mort. Moi j'ai retenu mes coups. Vous voyez, si c'est été exprimé, hein, le diable il n'a aucune pitié de nous. Mais si quelqu'un avait un témoignage, quelque chose à exprimer, posez ici la parole. Si ce n'est pas le cas, on va passer aux annonces, parce qu'il y a pas mal de monde qui doit passer. Peut-être juste moi, en tout début, donc, si tu peux mettre sur le jeûne et prière, que Karine veut faire l'annonce, mais dans ta chemin, m'a transmis une annonce à faire. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà, le conseil pastoral propose une journée jeûne et prière qui a été organisée par les groupes de prière. Donc, il y a dans l'organisation, il y a Natacha, il y a Karine, il y a Joël, enfin ceux qui font partie du groupe des groupes de prière. Voilà, il y a cette journée qui est prévue. Donc, le jeudi 14 mai. Donc pendant la journée, ben, vous ferez ça chez vous, seul ou avec d'autres personnes. Et le deuxième temps serait de se retrouver le soir à 17h pour passer un temps en commun. Et il est recommandé, pour préparer cette journée, de lire dans 2 Corinthiens, les chapitres 6 et 7. Voilà, mais cette annonce reviendra en cours. Bien sûr, on n'est qu'au mois d'avril. Et autre annonce par rapport à notre frère Jacques Baumann, j'ai réalisé en fait que la cérémonie d'adieu en sa mémoire sera ce vendredi qui vient. Vendredi 17 avril à 14h à l'église catholique de Basse-Cour. Donc voilà, ceux qui désirent s'y rendre, c'est encore devant nous. Maintenant, j'appellerai Jean-Marc. Jean-Marc, où est Jean-Marc? Ah. Et puis peuvent aussi déjà venir Pauline et Chloé. Donc pour Jean-Marc, il y a un PowerPoint aussi.
Voilà, bonjour aux personnes que je n'ai pas rencontrées ce matin encore. Jeudi avant Pâques, nous nous sommes retrouvés une septantaine de personnes ici dans la salle où nous avons pu nous rappeler, nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Et c'était vraiment une soirée vraiment formidable. Et puis le conseil pastoral a à cœur de dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet. Je ne veux pas les nommer parce que j'ai peur d'en oublier, mais merci à vous qui avez préparé toute cette soirée, qui avez organisé tout ça. C'était vraiment un moment fort pour notre assemblée. Merci de la part du conseil pastoral. Si on peut mettre le diapo suivant, deuxième annonce. Voilà, il y aura un concert qui est organisé le 24 avril par un groupe de Madagascar qui annonce l'évangile au travers de la musique et d'un concert. Donc ce sera à Charmoy à 20h et puis vous êtes tous invités à y participer. Il y a des flyers sur la table à l'arrière. Vous pouvez vous servir, inviter, distribuer. Et je lis un petit mot par rapport à ce groupe. En cette période de Pâques, les membres du groupe souhaitent faire entendre de par le monde la bonne nouvelle et répercuter à chaque oreille que Jésus-Christ est ressuscité. Avant de les voir reprendre la route qui les mènera pendant 3 mois en Suisse, en France, en Belgique et en Angleterre, ne manquons pas les prestations du groupe Niako dans notre région. Voilà, si vous êtes intéressés, vous serez les bienvenus. Bon dimanche.
Alors bonjour à tous, je me tiens devant vous pour vous présenter un projet. Donc tout d'abord, pour pouvoir vous donner un peu de contexte, j'ai commencé des études en théologie qui s'appelle Startup Ministry. Et dans ces études, j'ai une partie de stage et au travers de ce stage, j'ai mis en place un projet pour l'église. Donc... Oui, ce projet a été aussi une demande du CP et puis préparé aussi avec le CP. Voilà. Donc, le projet en question est de faire une fête de quartier, donc une fête des voisins. Le but de ça est de pouvoir rencontrer nos voisins, donc les entreprises alentour, au travers d'un apéritif et d'un repas canadien. Donc, pour la date, il s'agit du 22 mai, à partir de 17h jusqu'à 22h. Les informations suivront, un flyer est en cours. Et puis, pour le projet, je vous communique déjà que j'aurai besoin de pouvoir monter aussi une équipe. Donc, j'aurai besoin de personnes pour l'installation et le rangement, c'est-à-dire 4 personnes pour tout ce qui est table et chaise, et 2 personnes pour le grill. Il y aura aussi un grill qui sera à disposition. Donc, le but, c'est que les gens puissent venir, qu'on puisse passer du temps ensemble, apprendre à se connaître. Il y aura l'apéro, le repas, mais les gens ne sont pas obligés de rester pour les deux. Donc, on verra comment ça se passera. Voilà. Donc, c'est pour les personnes qui souhaitent venir dans l'équipe, je me tiendrai à l'arrière et puis vous pourrez venir vers moi. Et puis, je vous laisse noter dans vos agendas le 22 mai, c'est un vendredi, à partir de 17h. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, cette fois, c'est le flyer rose. Oui. C'est une information qui arrivera bientôt et c'est rose parce que ça concerne une bonne moitié de la salle, c'est-à-dire les dames de l'église. C'est l'annonce de notre prochain café contact qui aura donc lieu le samedi matin du 2 mai de 9h à 11h30 environ. L'invitée, l'oratrice de cette matinée, c'est Barbara Yost, une dame de foi qui a vécu sur le champ missionnaire et qui a un cœur pour la mission, mais qui a aussi un cœur pour l'Église ici et maintenant, qui nous partagera ce que la Bible nous dit de la reconnaissance, que le Seigneur lui a mis à cœur de nous transmettre par rapport à la reconnaissance. Donc, bienvenue à toutes les dames. Merci de vous inscrire jusqu'à quelques jours avant, jusqu'au 27, qu'on sache combien de croissants commander, c'est très important. Et vous pouvez aussi inviter vos amis avec qui vous aimeriez partager ce moment autour de la reconnaissance. Le flyers papier arrivera sous peu, mais voici déjà le flyers digital.
Voilà, merci pour ces informations. Je crois que tout a été dit. Équipier de prière. Qui est équipier de prière ce matin? Il y a Albin et André. Donc voilà, si quelqu'un a besoin de prier, a quelque chose à partager, Albin et André se tiendront là. Et puis si vous, plutôt avec une dame, certainement vous trouverez une dame qui peut aussi être à votre écoute et prier. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte. Je vous demanderai pour ceux qui peuvent de se lever. Enfin, voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous guide durant cette semaine et pourvoie à tous vos besoins. Amen. Bon dimanche à chacun, chacune.